Nous sommes le 12 novembre ici à la Maison des Associations, précisément à la salle Gandhi, en présence de Catherine Dominicé. Bonjour à toi.
Bonjour.
Merci de nous recevoir alors que nous sommes à l'aune de la projection de ton œuvre. On va d'abord peut-être tracer quelques jalons. C'est une exposition donc qui s'appelle « Nous saisonniers, saisonnières, trois petits points, Genève 1931-2019 », qui a lieu depuis le 30 octobre et jusqu'au 24 novembre au commun, donc c'est le bâtiment d'art contemporain, et elle est là pour rendre hommage aux travailleuses et aux travailleurs saisonniers, leur donner la parole à celles et ceux de hier et d'aujourd'hui. Plus précisément, ton projet à toi, qui est cinéaste, c'est Les Lettres Ouvertes. Voudrais-tu nous dire un petit mot à propos de ce projet-là, à l'intérieur de cette exposition ?
Oui, tout à fait. Donc les porteurs du projet de cette exposition voulaient avoir des témoignages au centre de l'exposition. Donc si vous y allez, il y a trois grands écrans et ils cherchaient des projets. Et en fait, voilà, ils m'ont contacté. Et puis en réfléchissant, je voyais bien qu'ils voulaient quelque chose d'un peu original. Et donc j'ai un peu réfléchi et je me suis dit, mais pourquoi pas rendre aussi hommage aux nombreuses lettres que les saisonniers et saisonnières ont envoyées à leur famille pour garder le lien avec la famille, pour raconter ce qu'ils vivaient, pour partager des choses, etc. Et j'avais envie que les saisonniers nous parlent, en fait, quand on entre dans l'exposition. Je me suis dit, ben pourquoi pas faire ces portraits à travers une lettre. Alors, au début, on m'a dit, attends, tu veux demander à des anciens saisonniers d'écrire une lettre en français qui explique. Et ben, j'ai dit, ben oui, en fait, c'est ça qui va être un peu le défi de ce projet. Et ça a été, voilà, une très chouette expérience. Donc, l'idée aussi, c'était qu'il l'adresse à quelqu'un. Donc, c'était important, la personne à qui il l'adressait. Alors, forcément, il y a la famille, hein, il y a les enfants, les petits-enfants, les frères et sœurs, mais il y a aussi des personnes plus symboliques comme un ancien saisonnier espagnol qui l'adresse à sa maîtresse d'école, ou un Italien de troisième génération qui a 24 ans qui l'adresse à la conseillère fédérale parce qu'il est en train de faire sa demande de naturalisation. Et puis donc de faire vivre cette autre personne qui n'est pas là mais qui est présente, en fait. On pense à elle forcément puisqu'elle s'adresse à elle. Et donc en fait, à travers ces lettres, il y a une relation qui se crée. On prend un peu en otage cette personne. Hein. Il y a des moments qui sont pleins d'amour, mais il y a aussi des secrets de famille qui sont dévoilés, parfois des reproches aussi. Et c'est ça que je trouvais assez beau dans ce projet, qu'il rendrait pour moi aussi cinématographique. Mmh. Après, c'était pas seulement une lettre, il fallait décider, c'est pas juste un texte, c'est un film, donc il fallait décider, c'est pour ça que ça devient des lettres ouvertes, parce qu'il s'adresse à nous, spectateurs, quand on regarde le film, et c'est donc de décider où est-ce que ces lettres vont être lues. Donc on a essayé de trouver des lieux symboliques, et puis aussi d'utiliser un maximum leurs archives personnelles, donc leurs photos, qui étaient souvent très touchantes, et nombreuses, étonnamment. Et puis après, on a eu la chance que les archives de la RTS aussi, ils ont été d'accord qu'on les utilise, et ça a permis aussi. Ce qui était fou, c'est que parfois il y avait des situations qu'on décrit dans les lettres et qu'en fait je retrouvais dans les archives. Par exemple, un ancien saisonnier albanais de Macédoine qui me raconte qu'il vivait au-dessus du club 58 avec quatre de ses de saisonniers aussi de sa région, qui vivaient à quatre, qui faisaient à manger ensemble. Et puis on retrouve en fait dans les archives de la RTS, alors c'est pas des Albanais, c'est des Portugais, mais c'est la même situation, ils sont à quatre en train de faire à manger à moitié torse nu, on sent qu'il y a une journée de travail qui est passée. Et je trouve que c'était assez fort, en fait. Ce qui est important de dire, c'est que ça concerne toutes les communautés qui étaient saisonniers. Il y avait les Italiens, les Espagnols, les Portugais et l'ex-Yougoslavie. Par exemple, on a une Slovène, mais on a aussi deux Albanais du Kosovo et un de Macédoine. Parfois, c'était compliqué d'écrire une lettre et donc on utilisait les cassettophones où en fait on enregistrait des cassettes où on parlait en fait à la personne qui est absente. Donc dans une des lettres, il y a Olga qui adresse à son fils et en fait elle raconte que comme c'était très difficile aussi de se téléphoner. Dans le cas d'Olga, il n'y avait pas de téléphone au baraquement, donc elle devait aller à la gare le samedi ou le dimanche. Ça veut dire qu'elle devait prendre rendez-vous avec ses grands-parents, ses beaux-parents devaient être au courant. Enfin, il devait fixer une date et ses beaux-parents où habitait son fils n'avaient pas de téléphone, donc il devait aller dans le bar du village d'à côté. Donc c'est très compliqué, forcément il y a des rendez-vous ratés. Et donc le cassettophone permet de raconter des choses, de pas trop se, peut-être, Il n'y a pas tout le monde qui a envie d'écrire aussi, hein. C'est un exercice d'écrire. Donc, malheureusement, elle n'a pas retrouvé ses cassettes de son fils dans un déménagement. Ça, évidemment, je l'ai questionné plusieurs fois. Mais dans l'exposition, je sais qu'il y a une archive sonore. Bon, c'est en italien, mais où il y a quelqu'un qui... Je ne sais plus dans quel sens ça va, si c'est quelqu'un d'ici qui envoie une cassette ou quelqu'un en Italie qui envoie un parent saisonnier. Quoi. Bon.
Alors justement, qui sont-ils? Quelles sont-elles, ces saisonnières et ces saisonniers?
Être saisonnier, ça veut dire avoir un contrat ici, de venir 9 mois travailler pendant cette période-là. Au début, c'était beaucoup les saisonniers dans le bâtiment. En fait, ils venaient pendant la période où ils pouvaient construire et pendant l'hiver, et donc ils repartaient 3 mois au pays. Donc ça, c'était dans... Voilà, donc ça, c'est une chose. Ils ne pouvaient pas changer d'employeur et il n'y avait pas le droit au regroupement familial. Donc c'était essentiellement des hommes. Donc si les femmes n'avaient pas de contrat, elles devaient rester au pays. Alors parfois, forcément, elles venaient illégalement seules ou accompagnées des enfants. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'était beaucoup pour le bâtiment et ces 9 mois n'ont pas changé. Mais en fait, la plupart des saisonniers, surtout ceux dans la restauration, en fait, ils restaient travailler illégalement pendant les 3 mois. C'était très clair là, avec l'employeur. Et ils risquaient beaucoup, parce que s'ils se faisaient attraper, c'était plus pour leur pomme que celle de l'employeur, à mon avis.
Oui, donc on peut parler là vraiment de conditions de travail extrêmement difficiles.
Oui, oui, bien sûr, oui. Oui, oui, et puis des heures de travail, je pense notamment dans la restauration, parfois des 14-15 heures ou plus. Dans une des lettres, il y a Exim qui arrive presque comme adolescent, qui se retrouve autour de 18 ans dans un restaurant en cuisine et puis qu'après quelques jours il se dit qu'il a fait une grave erreur parce que c'est il se retrouve à l'état d'esclave presque.
Ouais. Et alors voilà, on précise, donc ce statut a émergé dans les années 30 et qu'il a répondu, il répondait à l'époque à ce besoin de main d'œuvre corvéable et que c'est de cette manière-là que des cohortes entières de personnes sont venues travailler dans des conditions, comme tu l'as dit, extrêmement difficiles ici à Genève.
Oui,
et partout en Suisse.
C'est surtout après la Deuxième Guerre mondiale où il fallait construire la Suisse, les autoroutes, des grandes infrastructures comme l'hôpital à Genève, la gare, l'aéroport, etc. Enfin, certaines parties. C'est vraiment leur rendre hommage parce que c'est pas assez mis en avant cette histoire et c'est eux qui ont construit une bonne partie de notre pays. Et voilà, je trouve que c'est et en fait une autre chose qui est touchante, c'est que Et je pense que cette exposition, ça va permettre à certaines familles de reconstruire son histoire, de refaire son album de famille, parce qu'il y a souvent... c'est difficile de parler de conditions de travail difficiles, c'est difficile de parler d'humiliation. On a envie que ça parte, on n'a plus envie d'y penser, ou simplement on n'a pas envie d'en parler.
Oui, c'est ça. Et toi-même, as-tu été confronté, lors justement de tes rencontres et des récits que l'on t'a fait, à une mémoire plutôt apaisée, ou alors une mémoire colérique encore, ou à une mémoire blessée? Une mort en souffrance.
Fragile. Un des saisonniers me disait, en fait, quand je parle de moi comme jeune homme saisonnier, je parle à la troisième personne. C'est comme ça que j'arrive à en parler. Olga, qui a adressé sa lettre à son fils, donc ils ont été séparés jusqu'à qu'il ait l'âge de 8 ans, ensuite il a pu venir en Suisse. Elle a vraiment hésité à faire cette lettre. Et puis en fait, ça l'a apaisé de ce qu'elle m'a dit. Enfin, faudrait lui poser la question, mais ça a enlevé un peu de culpabilité de pouvoir partager ça, une histoire que de nombreuses mères peuvent se retrouver ou familles peuvent se retrouver dans son portrait.
Alors cette exposition contient le film, bien entendu, Lettre ouverte que tu projettes ce soir, en compagnie de quelques témoins qui seront là et qui répondront à quelques questions, si j'ai bien compris.
Oui, tout à fait.
Et puis sinon, il y a un programme que l'on retrouve dans le détail sur le site www.expo-saisonnier.ch. Jusqu'à quand est-ce que ce statut a-t-il existé, le permis à saisonnier?
Il y a eu beaucoup de mobilisation à Genève, enfin je pense partout en Suisse, mais à Genève c'était 1993, si je ne me trompe pas, 93 ou 94, ça a été aboli sur le plan cantonal. Par contre sur le plan fédéral c'était en 2002 seulement, donc c'est assez récent. Et en fait c'est au moment où il y a eu la libre circulation des personnes.
Ce soir c'est la première fois que tu projettes ?
Oui, alors bon, c'est un peu spécial, c'est-à-dire qu'en fait tous les portraits qui sont dans l'exposition, on a décidé de faire une projection comme ça à la suite, donc c'est pas encore vraiment un film, hein. C'est une série de portraits, un peu comme une série de courts-métrages. Je vais voir par la suite si j'en fais un film ou pas. C'était aussi pour créer un événement où il y a un débat et puis remercier la Maison des Associations qui nous ont prêté leurs locaux pendant la production de ce film.
Donc les archives contestataires, le Collège du Travail et Rosa Brooks également. Ça, ce sont les co-organisateurs de l'événement. de l'expo. Et quelle postérité pour ce film par la suite ? Est-ce que tu te questionnes déjà sur comment le faire vivre par la suite ? Voyagerait-il ? Trouverait-il une autre forme, de nouveaux écrans ?
Oui, bah j'ai un peu une idée en tête, ouais, c'est d'utiliser certains de ces courts-métrages, mais d'essayer de trouver des respirations entre les lettres, parce que c'est assez fort ce qu'ils disent, on a besoin un peu de digérer, et donc voilà, j'ai une idée, d'accord, mais j'attends un peu le retour, parce que ça s'est fait très vite, hein, le 15 janvier. Je savais que j'avais ce projet, le 15 septembre, il fallait livrer. Donc là, j'ai besoin un peu de recul et de retour.
Quel est ton état d'esprit à l'aune de cette projection, toi qui as recueilli, recensé cette mise à nu de ces personnes-là qui t'ont quand même dévoilé une partie de leur vie, une partie des fois très intime. Comment est-ce que toi, tu te sens ?
Moi, ce que je sens, en fait, de ce que j'ai reçu, c'est que on a vraiment besoin de parler de ce que cette immigration. Je parle pas seulement du statut de saisonnier, ceux qui sont arrivés avec un permis B, etc. Je pense qu'on met pas assez en avant à quel point cette population est importante. Il y en a qui sont naturalisés, d'autres qui sont permis C, peu importe. Et surtout pour la deuxième génération, je sens qu'il y a vraiment des trous de mémoire, en fait, on peut les appeler comme ça. Et qui a vraiment besoin de. Et je trouve que le cinéma pourrait, à travers des documentaires, mais aussi à travers la fiction, parler de tout ça et le rendre plus vivant et que ça fasse partie de notre mémoire.
Selon toi, voilà, ce travail de mémoire, il est manquant actuellement. Ce travail de mémoire collective, il est un peu manquant.
Oui. Alors bon, forcément, oui, il y a des archives, il y a des films historiques, mais je pense notamment dans la fiction. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Ouais, je veux dire, il y a un petit peu sur les Italiens, un petit peu sur les Espagnols, mais des films sur un saisonnier albanais, il n'y en a pas tellement.
Non.
Pas à ma connaissance, par exemple.
Et alors, les personnes qui ont participé, de leur côté, qu'est-ce que tu as ressenti ? Et y a-t-il un avant et un après s'être mis à nu et avoir participé à ce projet-là ?
Alors, c'est vraiment très frais. Hein. J'ai vu au vernissage dans leur regard qu'ils étaient très touchés de voir tout ça. Enfin, c'était public. Il y avait des magistrats de la ville, etc. Mais à vrai dire, je pense que la question va être posée ce soir. Donc, je me réjouis de. Quand ils sont venus, donc ils ont validé chacun des films, c'était très émouvant en fait. Souvent, on arrêtait le film, je voulais tout de suite leur expliquer des trucs par rapport au montage, puis je voyais dans leur regard, genre, c'est bon, calme, laisse-moi digérer un peu ce que je viens de voir, tu viens de me raconter une partie de ma vie. Donc oui, j'attends un peu de voir ce que j'ai senti aussi, ça ce que je peux dire, mais ça c'était au début du projet, c'est que le projet a été initié par la ville de Genève, et j'ai senti que pour eux, c'était une reconnaissance, et donc ça n'a pas été si compliqué de les convaincre. Après, il y a certains qui ne voulaient pas faire la lettre, mais de participer parce que c'était un peu, ouais, c'était une reconnaissance de. On a le droit de parler de ça, quoi, et on ne va pas nous juger.
Donc, ça n'a pas été si long que ça de convaincre ces personnes et de les accompagner tout au long de la réalisation de ce projet ?
J'ai pas trouvé, étonnamment.
Et toi, comment c'est né en toi, ce projet, cette volonté-là, est-ce que toi-même, peut-on dire que tu es accolé à une situation analogue ?
Alors, pas directement, mais j'ai fait un autre film qui s'appelle Les années Schwarzenbach, il y a à peu près 10 ans. C'était une co-réalisation, j'ai participé à ce projet un peu par hasard, mais en fait, j'étais vraiment très, très pris. C'est moi qui ai monté le film, donc j'avais accès à toutes les archives. Donc, c'est vraiment une leçon de cinéma. C'est là où j'ai découvert. Alors, moi, je savais, à l'école, j'avais les deuxième génération d'Italiens, Espagnols, Portugais. Je savais que ça avait été un peu difficile pour leurs parents, mais je connaissais pas toute l'histoire. Donc là, j'ai pu un peu refaire le fil dans ma tête. Et j'étais intéressée à faire un film sur les deuxième génération. J'avais un projet en train de réfléchir à ça, rencontrer des gens, et puis c'est là où ils m'ont contacté pour ce concours. Et donc voilà, c'était un concours, hein. Je savais pas exactement si ça allait être moi ou pas qui allait être pris. Après, dans mon histoire, donc moi je suis suisse et américaine, et dans mon histoire américaine, oui, il y a beaucoup, c'est l'immigration européenne qui va aux États-Unis avec des situations, par exemple, comme mon arrière-grand-mère qui se retrouve sur un paquebot seul avec sa meilleure amie, donc d'origine suédoise. Russe, on a appris aussi peut-être, qui arrive, qui rencontre un rendez-vous avec un vagoncle qui lui donne du travail. Elle se marie avec un autre Suédois qui est aux États-Unis. Ils traversent tous les États-Unis. Ils vont s'installer en Californie, ils construisent une ferme. Enfin, donc il y a plein d'histoires comme ça dans mon histoire personnelle. Et donc je pense qu'il y a quelque chose qui me touche. Ouais, je suis pas de deuxième génération, italienne, espagnole, portugaise, etc. Mais mais j'ai un c'est un sujet qui me touche en fait, et c'est ce qui me touche surtout, c'est de donner la parole à des gens à qui on donne peu la parole et de les mettre en confiance et de les écouter en fait. Moi j'ai surtout, la première chose que j'ai fait c'est de les écouter, et je savais qu'à travers ces lettres c'est un des points forts je pense du projet. Ouais.
Produire cette histoire, selon toi, c'est extrêmement important à l'aune d'un monde assez complexe qui nous encercle, non seulement pour les deuxièmes générations, mais aussi pour d'autres finalement, et pourquoi pas également pour des plus jeunes. Est-ce que voilà, ce type d'histoire-là devrait pénétrer également les livres d'histoire, devrait pénétrer les écoles?
Oui, bien sûr, je trouve que ça manque. Moi, j'ai été étonnée que j'ai dû attendre l'âge de presque de 30 ans, en fait, pour comprendre, en fait, ce qu'ont vécu les parents de mes amis à l'école. Donc oui, il faudrait, après, ça prend du temps, pour que ça arrive dans les livres d'histoire. C'est une histoire relativement récente, quand on pense que c'était milieu des années 90 que ça a été aboli à Genève, et fin des années 90, début 2000, sur le plan fédéral. Donc oui, et puis je remarque aussi que dans les familles, si l'histoire est claire, si l'histoire est racontée, l'identité est plus claire. Moins elle est racontée, plus il y a des non-dits, des problèmes, des tensions. Ça, c'est quelque chose que je sens.
Peut-on dire qu'il existe encore une migration du travail?
Oui, bien sûr. Moi, je suis aussi professeur de français langue étrangère, donc évidemment il y a de la migration de partout. Il y en a même. Moi, j'ai des Italiens et Portugais qui viennent, qui ont 20 ans, qui ont un salaire tellement maigre dans leur pays, qui décident de venir en Suisse. Souvent, il y a un oncle ou un cousin, etc. Évidemment, c'est par rapport à la précarité de leur statut. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent illégalement.
On arrive doucement au terme de cet entretien, parce qu'effectivement, dans quelques instants, tu vas commencer. On le rappelle, c'est www.expo-saisonnier.ch. Catherine Dominici, merci beaucoup. J'ai encore envie de te questionner sur ce qu'on appelle le roman national. Est-ce que le fait de découvrir cette histoire, comme tu l'as dit, relativement sur le tard, change l'idée qu'on se fait de la fabrication d'une forme de patriotisme ou d'identité nationale? Est-ce que finalement ça relativise pas cette sensation-là, ce ressenti-là, en disant mais en fait on s'aperçoit très concrètement là qu'un pays est tout le temps le fruit de migrations, qu'il est fabriqué avec ces migrations-là? Et est-ce que ça n'est pas là une manière de remettre en question justement ces crispations auxquelles on assiste maintenant et auxquelles on a assisté tout au long de l'histoire contemporaine?
Oui, après moi j'ai beaucoup de mal avec le nationalisme. Moi j'ai grandi à Genève, donc il y avait un Suisse dans ma classe, on était tous binationaux. Pour moi c'est normal le multiculturalisme, c'est plutôt qu'il faut le défendre, le maintenir, et de parler des différentes communautés de notre ville. Moi mon propre regard il a quand même un peu changé sur Genève. J'ai envie de continuer de parler de ça. Ça paraît pour moi des choses élémentaires.
L'exposition elle s'appelle Nous saisonniers saisonnières, trois petits points Genève 1931-2019, elle a lieu au commun, donc c'est rue des Bains numéro 28, du 30 octobre au 24 novembre. C'est du mardi au dimanche de 11h à 18h, l'entrée est libre.
www.libradio.org, la station debout.